Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
7h45, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Patrick Kanner, sénateur PS du Nord, président du groupe socialiste au Sénat et ancien ministre.
Oui, bonjour Patrick Kanner.
Bonjour Monsieur Roger.
Sur la pénurie de vaccins, le gouvernement avec ses mises au point, dit-il la vérité ou est-ce qu'il y a toujours un manque de transparence?
J'espère qu'il dit la vérité aux Français. Par contre, la question c'est est-ce qu'il la maîtrise?
Oui.
Et aujourd'hui, je crois qu'on est devant un gouvernement qui navigue à vue, qui n'a pas anticipé la situation, qui change de braquet en permanence, stop and go sur les questions du confinement ou du déconfinement. J'ai envie de dire une inquiétude que ressentent les Français, une anxiété, ils n'arrivent pas à se projeter. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu en personne, puisque j'ai assisté il y a une dizaine de jours à une réunion avec Jean Castex et Olivier Véran en visioconférence, où ils nous disaient, mais voilà, on va changer de braquet et on va ouvrir aux plus de 75 ans la fameuse vaccination. Les plus de 75 ans, je vous donne les chiffres quand même. 1 million en EHPAD, 5 millions dans la vie, je dirais, normale, classique. Ça fait donc 6 millions de personnes. Et dans la même réunion, Olivier Véran dit, et il confirme, qu'il y aura 1 million de vaccinés à la fin du mois de janvier. Bah, cherchez l'erreur. C'est-à-dire qu'on a ouvert une boîte de Pandore qu'on n'est pas capable de fermer parce qu'on a créé un espoir et surtout malheureusement une illusion pour beaucoup de Français.
Oui, c'est ça. Bon, ça vient en fait des contrats, quoi qu'il en soit. Peut-être qu'ils auraient dû être plus transparents dès le début en disant, bon, bah, de toute manière, on n'aura que tant de vaccins par les contrats qu'on a passés en fait avec les labos et via l'Europe et que ça va demander plus de temps. Mais,
et c'était assumé par le gouvernement puisque au départ, rappelez-vous, la première semaine, très 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 lente au niveau des vaccinations parce que le gouvernement savait qu'il n'avait pas les doses suffisantes. Et puis le même président du Conseil de défense, vous voyez à qui je fais allusion, Emmanuel Macron, qui avait validé cette stratégie, une semaine après, dans un grand journal du dimanche, pour ne pas le citer, tape du poing sur la table en disant « mais non, il faut aller beaucoup plus vite ». Donc, c'est de la navigation à vue, je répète cette expression.
Bon, le couvre-feu à 18h, ça marche ou pas, selon vous, Patrick Kanner? Est-ce que c'est efficace?
Ça améliore les choses.
Oui.
Mais vous voyez bien quand même les chiffres d'hier soir. On est toujours sur un plateau très haut, 23 000. Beaucoup de personnes qui rentrent en réanimation, à l'hôpital, etc. Je pense qu'à ce stade, on peut s'interroger sur le caractère de l'efficacité de cette mesure, qui est sûrement utile. La question, c'est est-ce qu'elle est suffisante?
Oui. Et, donc vous prenez par exemple un troisième reconfinement, c'est ça?
Vous savez, sur d'autres médias, j'ai confirmé, je confirme
que
il faudrait tout faire pour l'éviter.
Oui.
Mais tant qu'on est sur une vaccination aussi faible, une immunité collective aussi faible, eh bien, je pense que...
Mais pourquoi, par exemple, en Espagne, les restaurants sont encore en fait ouverts, avec des restrictions, etc. Le couvre-feu est beaucoup plus tardif, et au niveau des chiffres, c'est pas plus catastrophique qu'en France, quoi.
C'est donc, vrai. Est-ce que les gestes barrières sont plus respectés en Espagne qu'ailleurs? C'est possible. En tout cas, moi, je me limite à notre territoire national, c'est largement suffisant, et on voit bien qu'on n'est pas bon. C'est mieux qu'en octobre, nous étions à 50 000 contaminations par jour. Là, nous sommes à peu près à la moitié en moyenne.
25 000, on est revenu très haut, quoi.
Mais ce n'est pas les 5 000 qui étaient espérés par le gouvernement. Donc, je crains, malheureusement, qu'un troisième reconfinement se profile à l'horizon.
Oui. Bon, alors, certains disent que ça va être catastrophique pour l'économie. Patrick Kanner, quand même, non?
C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Vous savez, depuis un an, nous vivons sur le ruissellement de la dette publique. On va avoir 300 milliards de dettes publiques Covid cantonnées dans les semaines à venir, manifestement. Peut-être un nouveau projet de loi de finances rectificative au printemps. Donc, on sait bien qu'on vit à crédit aujourd'hui. Mais là, vous voyez, je ne jette pas la pierre au gouvernement. Il fallait sauver l'économie, il fallait sauver les Français, les salariés. Ouais. La seule question, c'est la suite.
Ouais.
Et je crains un automne sanglant, permettez-moi l'expression, en matière économique.
Alors, vous avez été ministre de la Jeunesse et des Sports aussi, des primes d'une grande partie des étudiants, les salles de sport fermées par ailleurs. Alors, cet après-midi au Sénat, vous allez défendre une proposition de loi de nouveau pour l'ouverture du RSA aux 18-25 ans. Du côté du gouvernement, on dit qu'il n'en est pas question pour l'instant.
Oui, on est sur un discours idéologique de la part du gouvernement qui est de dire mais non, mais on ne peut pas offrir comme seule perspective à des jeunes qui arrivent dans la vie active le RSA. Je l'entends. Je l'entends, mais le seul problème, c'est l'urgence. Vous avez aujourd'hui 1,5 million de jeunes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est le cinquième des jeunes dans notre pays, de 18 à 25 ans, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. 30% des jeunes de moins de 25 ans sont touchés par le chômage. Ils n'ont plus de petits boulots à cause de la crise sanitaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Nous, on est dans une démarche pragmatique. Il faut donner à manger.
Oui.
Mais... Et d'ailleurs, ils vont aujourd'hui, je préfère un RSA aux jeunes de moins de 25 ans que de les voir
jeunes,
à la soupe populaire.
Pour tous les jeunes ou pour certains jeunes ? Parce qu'il existe déjà des... Par exemple, c'est vous qui aviez lancé la garantie jeune.
Oui.
C'est ça, mais allocation de 500 euros déjà.
Regardez bien les chiffres. Je vous ai parlé d'1,5 million de jeunes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. La garantie jeune aujourd'hui, qui est un très très bon système, non pas parce que je l'ai porté, mais parce qu'il est utile, efficace et reconnu par toutes et tous, y compris par le gouvernement, c'est 100 000 jeunes. Donc il y a un décalage. Et développer...
Donc c'est ce delta entre les 100 000 et 1,5 million.
Il faut
c'est
tenir.
Pas pour tous les jeunes, quoi, bien sûr.
Non, c'est pas pour tous les jeunes, c'est pour les jeunes qui en ont besoin. C'est, c'est pas un revenu minimum universel, c'est un revenu minimum pour ceux qui en ont besoin.
Oui.
Et donc aujourd'hui, il faut sauver une partie de notre jeunesse qui ne peut pas aller en permanence au Secours Populaire, chez Emmaüs, au Restaurant du Cœur. Enfin, c'est quand même une vraie interrogation que la 7e puissance mondiale la plus riche, ou la 6e, ça dépend des chiffres, soit amenée à ce que sa jeunesse aille à la Secours Populaire.
Est-ce que votre texte va quand même être voté cet après-midi ? Il y a des chances d'être adopté ? Non.
Non,
non, il ne
non
le fera
parce,
pas.
Que la, bon. Parce que la droite reste sur cette logique. Mais je peux vous dire que j'ai, et je ne donnerai pas de nom, m'en excuserai, mais nous avons interpellé par ce texte, beaucoup de sénateurs de droite qui disent, oui, il y a quand même une situation d'urgence et il faut une réponse d'urgence.
Oui. Les salles de sport fermées également, vous avez été ministre des Sports, est-ce que c'est pas un tour de vis là, qui est systématique et trop fort, avec une administration qui va pas voir en fait ce qui se passe et résultat, à côté de ça, beaucoup de gens qui dépriment, quoi, non ?
Salles de sport, mais aussi, oui, vous pouvez regarder
les
cours de sport dans les écoles.
Oui.
On est sur le
supplice... Ah bah les cours de sport ont eu lieu jusqu'à présent
dans
les
écoles. Oui, mais donc maintenant ils sont aussi ratiboisés. Oui. On est sur un supplice chinois ou un supplice du Garo, prenez le supplice qui vous plaît, entre guillemets, permanent. Et je crois que c'est ça qui devient insupportable pour les Français. C'est une acceptabilité aux mesures qui sont prises, et surtout
bah oui, mais
un
en même
manque
temps,
de
vous
confiance.
Êtes un peu, c'est paradoxal ce que vous dites, parce que tout à l'heure vous disiez qu'il va falloir sans doute fermer en fait, beaucoup plus de choses, et puis là, quand vous évoquez ces salles de sport, vous dites, ah oui, il faudrait
non,
peut-être...
Ce que je veux dire par là, c'est que il faut que le discours soit clair. S'il y a des mesures fortes à prendre, prenons-les, expliquons-les. On a un problème de défiance aujourd'hui des Français à l'égard de leurs gouvernants. Après la question des masques, des tests, aujourd'hui des vaccinations, ne pas avoir confiance dans la gouvernance du pays, c'est très très grave, je pense, en termes, là aussi, de climat dans notre pays. Aujourd'hui, je crois que les Français demandent simplement de la vérité. Si on ne peut pas vacciner, eh bien, on ne vaccine pas. Mais on l'explique. On l'explique.
Oui. Patrick Kanner, Conseil des ministres aujourd'hui, on va notamment évoquer le projet de loi constitutionnelle autour en fait, du climat, de l'environnement, etc. Il y a toujours cette idée de référendum dans l'air. C'est nécessaire ou pas, selon vous ?
C'est superfétatoire.
Oui.
C'est en plus. Aujourd'hui, la charte de l'environnement a été intégrée dans la Constitution par Jacques Chirac et a une reconnaissance constitutionnelle. Donc on n'a pas besoin de rajouter des choses qui d'ailleurs ne sont pas très claires au niveau de l'écriture.
Ouais.
Admettons. Le référendum, pourquoi faire ? Aujourd'hui, par la simple application de l'article 89 de la Constitution, le gouvernement pourrait demander au Parlement d'intégrer cela par la voie du Congrès. Le référendum, c'est une sorte de vote qu'espère M. Macron pour préparer sa campagne présidentielle.
Ah,
il prend un risque énorme.
Bon, alors,
il prend un risque énorme.
Oui. Bon, alors parlons justement...
Parce qu'il peut avoir un refus.
Il peut avoir effectivement un refus. Il y a une autre élection, puisqu'on parle en fait de démocratie. Les régionales, vous serez sans doute candidat pour la région, en fait, la région du Grand Nord.
Ouais,
absolument, des Hauts-de-France.
Grand Nord du
Poisson. Non, mais les Hauts-de-France, non, mais c'est vrai.
Même j'aime bien le Nord.
Oui, quand même, hein, vos racines, elles sont...
C'est ma racine.
Elles sont bien là-bas, Patrick Kanner. Est-ce que vous croyez sincèrement que ces élections... Alors bon, déjà, elles ont été reportées de mars à juin. Est-ce qu'elles auront lieu en juin aussi ?
Moi, je le souhaite. Je crois qu'il ne faut pas mettre sous été noir une élection, un rendez-vous démocratique.
Vous le souhaitez, ça veut dire que vous avez un doute, quoi.
Oui, j'ai un doute. J'ai un doute parce que le gouvernement ne fait pas beaucoup d'efforts pour qu'elle soit organisée. Il n'y a pas de vote par correspondance prévu. Il n'y a pas de vote anticipé, comme aux États-Unis. Et on a vu qu'il y a eu une élection démocratique qui s'est déroulée dans un climat de crise sanitaire. On n'a pas prévu de nouveaux moyens de communication pour remplacer, entre guillemets, les porte-à-porte ou les marchés. Donc c'est vraiment une loi de report au minimum que nous allons adopter la semaine prochaine au Sénat, la semaine suivante à l'Assemblée nationale. Donc, le fait que le gouvernement ne veuille pas modifier le code électoral m'inquiète sur ses intentions réelles.
Bon, vous voulez dire que, si c'est, pour être assez clair, qu'Emmanuel Macron ne veut pas de ces régionales au mois de juin, il n'en a pas envie et qu'il n'y en aura pas. Alors,
il n'en a pas envie, il a vu le résultat catastrophique pour lui des municipales, et il sait qu'il n'y aura aucun président de département ou de région qui serait de sa sensibilité politique. Et donc, pour lui, effectivement, c'est une étape à enjamber.
Oui, vous avez évoqué les États-Unis. Un mot, Patrick Kanner, aujourd'hui, donc avec l'investiture de Joe Biden. Qu'est-ce que vous attendez de Biden? Et est-ce que finalement, tout a été négatif avec Trump?
Il a eu des résultats économiques par un ultralibéralisme, mais qui a fait des dégâts terribles sur le plan social. Quand on supprime le Barack Obama Care, on voit ce que ça donne aujourd'hui sur le plan de la pauvreté aux États-Unis. Donc c'est un président de droite, pour ne pas dire de droite extrême, qui s'en va, pour un président qui n'est pas de gauche. Les démocrates sont des gens de centre-gauche, je dirais.
Il est quand même plus de gauche.
Ouais. En tout cas, il a des signes, vous voyez, quand vous avez une vice-présidente de couleur, quand vous avez une ministre de la santé qui est transgenre, etc. Je me dis que l'Amérique va redonner espoir au monde entier, alors qu'elle donnait beaucoup de craintes au monde entier, notamment avec la rupture du multilatéralisme par M. Trump. M. Trump était un homme dangereux. Je le dis comme je le pense. Il s'en va. Goodbye, Trump. Ouais.
Et à propos d'espoir, vous avez aussi de l'espoir dans Anne Hidalgo, à gauche ou pas?
Oui.
C'est votre candidate?
Je n'ai pas de candidate. D'abord, elle n'est pas candidate à ce stade où je vous parle. Je pense qu'aujourd'hui, la gauche représente un espoir pour beaucoup de Français qui ont compris que le ni droite ni gauche, ça a amené dans le mur. Moi, je souhaite le clivage droite-gauche. J'espère que la gauche l'emportera.
Bon, plutôt Hidalgo que Montebourg?
Mais Montebourg n'est pas non plus candidat. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis simplement que dans la sensibilité qui est la mienne, social-démocrate, je suis un fidèle de François Hollande, vous le savez.
Mais est-ce qu'il ne perturbe pas un peu, là, justement, les jeux à gauche?
Laissez-moi terminer, M. Rocher. Ouais. Simplement pour dire qu'il faut un candidat de la famille socialiste, social-démocrate, à cette élection 2022. Et il est vrai que, ou François Hollande, mais il n'est pas candidat, chacun le sait bien, ou Mme Hidalgo, qui peut-être le serait, représenterait, je pense, un espoir pour cette gauche de gouvernement qui est aujourd'hui très orpheline, qui a cru parfois en Emmanuel Macron, mais qui aujourd'hui s'aperçoit que c'est un homme de droite très giscardisé, permettez-moi l'expression, avec respect pour la mémoire de l'ancien président de la République.
Oui. Patrick Kanner, dernière question avec Cécile.
Oui, la moitié des associations de Montpellier, dont la Ligue des droits de l'homme, ont refusé de signer la charte de la laïcité de Michaël Delafosse, qui est maire PS à Montpellier. Est-ce qu'il faut leur supprimer ou mettre fin aux subventions?
C'est une décision qui doit être prise par la municipalité de Montpellier. Moi, je regrette que cet acte très fort qui a été pris par ce nouveau maire, qui est remarquable, non pas parce qu'il est socialiste, mais aussi un peu, disons-le, mais qui a quand même vraiment une vision pour sa ville.
Qui avait porté ce programme sur la laïcité, justement.
Qui avait porté ce programme. Il devra naturellement décider en souveraineté ce qu'il doit faire. Je ne suis pas pour la double peine, je suis pour la conviction. Je crois en politique, à la conviction et non pas à la contrainte. Donc, ils n'ont pas voulu signer. Eh bien, il faut travailler avec ces associations pour dire que le bien de ce pays, c'est la laïcité, c'est-à-dire la capacité pour nous de vivre ensemble.
Merci Patrick Kanner, sénateur PS du Nord, président du groupe socialiste au Sénat et ancien ministre.
Et dans un instant, votre journal de 8h. Restez avec nous, merci de votre fidélité au Grand Matin Sud Radio.